Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant la victoire finale. Nous arrivons à l'étude numéro 7. Le titre sera « Dieu pourvoit dans les moments difficiles ». Faisant allusion à la Nouvelle Alliance, l'auteur de l'Épître aux Hébreux cite Jérémie, chapitre 31, passage dans lequel le Seigneur promet à Israël d'établir une nouvelle et meilleure alliance. Toutefois, cette alliance, c'est celle sous laquelle nous sommes, vous et moi, en tant que chrétiens. Il est dit dans Hébreux chapitre 8, verset 10, « Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, en mettant mes lois dans leur entendement. » Eh bien, je les écrirai également sur leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Avons-nous pleinement compris ce que nous disait Dieu lorsque il a promis « Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple » Par là, Dieu nous assure qu'à chaque moment de notre existence, il sera tout pour nous, que nous aurons tout en lui, et cela pour toujours. Alléluia. Instant après instant, il devient ce dont nous avons besoin à cet instant précis. C'est l'interprétation de base du nom de Dieu en hébreu, c'est-à-dire quand il dit « Je suis, oui, je suis celui qui est. » Quand Moïse demanda à Dieu « Que répondrai-je ?» ou « Qui répondrai-je qui m'a envoyé ?» Et le Seigneur lui dit « Eh bien, tu diras simplement au fils d'Israël « Je suis » m'a envoyé vers vous. Exode, chapitre 3, verset 14. C'est la manière de Dieu de communiquer à Moïse une vérité spirituelle, c'est-à-dire celle du maintenant, et éternel de Dieu. Dieu vit dans le maintenant. Et nous vivons dans le temps. Dieu est, et il sera toujours dans le maintenant. Dieu dit à Moïse, « Mon nom est Je suis ». Mais par la suite, Dieu se mit à définir tout ce qu'il est. Chaque nom révèle un aspect merveilleux de ce que Dieu, de ce qu'il est pour nous continuellement. Il dit, « Je suis votre médecin, Jéhovah Rapha. Je suis celui qui pourvoit, Jéhovah Jireh. Je suis votre paix, Jéhovah Shalom. Je suis votre victoire, Jéhovah Nissi. Je suis votre justice, Jéhovah Tzidkenu. » Oui, je suis en effet votre berger. Je suis présent, toujours avec vous. Je suis votre sagesse. Je suis votre sanctification et votre rédempteur. Dieu est tout cela et bien plus encore. Il est continuellement. Ses attributs sont disponibles dans l'immédiat, parce qu'il a dit « Je suis ceci » et « Je suis cela pour vous ». Je répète, ces attributs sont disponibles dans l'immédiat parce qu'il a dit « je suis ceci et je suis cela pour vous » à chaque instant de votre vie, dans chacun de vos besoins, je suis. Parce que je suis votre Dieu, je deviens pour vous ce dont vous avez besoin à ce moment même, ce moment précis du maintenant. Je m'adapte moi-même pour répondre à votre besoin au moment où vous avez ce besoin. Et cela, je le fais sans interruption, parce que je suis votre Dieu. Merci Seigneur. Hier, j'avais besoin de guérison. Et comment? Il était pour moi Jéhovah Rapha. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de guérison, mais j'ai besoin qu'il pourvoie. Il devient pour moi Jéhovah Jireh. Demain, je n'aurai peut-être pas besoin cela, mais j'aurai besoin de la sagesse. Et elle me sera nécessaire. Et ainsi Dieu s'adapte continuellement afin de répondre à nos besoins, à vos besoins. Quand Dieu promet « Je serai votre Dieu », cela veut dire tout ce que nous venons d'énumérer. Ce sont les paroles les plus merveilleuses qui puissent, et on peut dire que nous puissions entendre avec nos oreilles. Ce sont celles qui nous disent que celui-ci veut être mon Dieu, que son désir est de pourvoir à tous mes besoins, moi qui suis son enfant, et qu'il s'est engagé même à le faire. La promesse ne s'est pas arrêtée là, car Dieu a dit encore autre chose. Il a dit « Ils seront mon peuple » et c'est là notre part dans l'Alliance. C'est notre rôle et nos cœurs sont tristes parce que nous connaissons nos faiblesses. Oui, nous disons intérieurement que c'est bien trop beau pour être vrai tout cela et qu'on aurait dû se douter qu'il y avait sûrement un piège quelque part dans cette merveilleuse promesse du Seigneur. Je dois faire quelque chose et je sais que je n'en serai pas capable. On est donc découragé. Mais voilà où nous devons apprendre ce que signifie la grâce, cela signifie que c'est dans le repos en lui, en Dieu. Et ils seront mon peuple. Alors, voyons, que signifie tout cela? Eh bien, cela signifie que le peuple de Dieu peut se reposer. Nous nous reposons où nous nous appuyons sur la connaissance de cette vérité. Dans chaque moment de besoin, Dieu devient pour moi tout ce dont j'ai besoin pour lui obéir parfaitement. Il est ma justice, il est ma sanctification. Quoi qu'il me demande, il pourvoit à tout ce qui m'est nécessaire pour lui obéir. Ça, c'est la grâce. Puissions-nous, chers amis, une fois pour toutes, saisir ce que cela peut signifier. La grâce n'est pas la loi. Oh non! Sous la loi, nous portons le poids de satisfaire nous-mêmes, moi-même, aux exigences judiciaires. Or, sous la grâce, nous nous abandonnons à l'esprit et Dieu agit. Les tables de la loi étaient gardées à l'intérieur de l'arche. L'arche représente le Seigneur Jésus-Christ. Cette arche, donc, Jésus-Christ, est maintenant dans nos cœurs, dans vos cœur. Ce que nous gardons, c'est lui, et lui, il garde la loi. quand la Sainte Parole déclare « Et ils seront mon peuple », cela signifie que je peux désormais marcher dans l'obéissance à Dieu. Je n'ai plus à avoir peur de sa volonté. Je suis d'accord avec Dieu. Sa volonté, elle est bonne, elle est agréable et parfaite. Je n'ai plus à me dérober dans la crainte de la volonté de Dieu, car tout ce dont j'aurai besoin pour accomplir sa volonté, il me le donne. Cela ne vient pas de moi-même, oh non, mais cela vient de Dieu lui-même. Nous avons peur de la volonté de Dieu parce que nous ne le connaissons pas tout à fait. Et nous ne le connaissons pas parce que nous n'avons jamais su faire suffisamment le silence en nous-mêmes pour découvrir les choses qui le concernent. Il est celui qui devient ce dont j'ai besoin à chaque moment de ma vie. Nous vociférons dans la prière pour revendiquer une réponse, alors que la réponse, c'est lui, Yahvé l'Éternel. Dieu a dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Psaume chapitre 46, verset 10. Nous ne reconnaîtrons jamais le grand « Je suis », nous ne comprendrons jamais sa sainteté tant que nous ne saurons pas nous arrêter tranquillement dans sa présence. Quand nous le ferons jour après jour, alors le voile s'ouvrira devant nous. Il se révélera à nous et nous apprendrons à le connaître. Non pas intellectuellement, car cela équivaut à être informé sur lui, ce que nous sommes la plupart déjà. Mais c'est par nos cœurs et notre esprit que nous le connaîtrons. Je répète, c'est par nos cœurs et notre esprit que nous le connaîtrons. Partout où la présence personnelle de Dieu est manifestée, on voit se manifester sa puissance et le fait qu'en tout, il pourvoit. Présence, puissance et provision, tout cela, il pourvoit. Et les trois sont liés, et nous ne devons donc jamais oublier cela. Nous avons vu qu'Israël avait été nourri, protégé et éduqué avec tendresse par la présence de Dieu dans l'arche par un petit coffre en bois d'acacia. Cette présence nourrissait, arrosait, guérissait et délivrait des millions d'âmes pendant 148 000 journées. 148 000 jours. C'est l'un des plus grands miracles de l'histoire. Notre Sainte Bible prédit que Dieu fera des choses encore bien plus grandes à la fin de notre ère. Mais, dans le dernier temps, la puissance de Dieu n'émanera pas d'un petit coffre fait de main d'homme. La puissance et la bénédiction de Dieu proviendront de sa demeure qui sera au milieu de son peuple. Nous sommes le temple de sa puissance, si toutefois nous sommes entrés dans son repos. Notre intellect humain, en général, n'associe pas ces deux mots qui sont la puissance et le repos. Leur sens nous paraît opposé l'un à l'autre, et pourtant, oui, pourtant, ils ne le sont pas. Il est nécessaire que les deux aillent de pair, la puissance et le repos. Nous ne ferons jamais l'expérience de la plénitude de sa puissance tant que nous ne nous serons pas soumis à son repos. Soit nous continuerons d'essayer d'accomplir le travail par notre force et par notre intelligence, soit nous nous efforcerons pour permettre à Dieu, à notre Père Céleste, d'agir librement. Jésus a dit qu'il écoutait et que son Père faisait l'œuvre. Et il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu a commencé de m'instruire afin d'entrer dans son repos avant la tragédie qui devait s'abattre sur ma vie. Il y a quelques années, le Seigneur a donné une vision à un jeune homme d'une église. Celui-ci se réveilla un matin, et alors qu'il était encore couché, il a eu la vision d'un grand aigle qui se posait sur une grosse branche. Or, celle-ci était pourrie, et sous le poids du gros oiseau, elle se détacha de l'arbre avec des craquements. Mais, avant que la branche ne tombe en emportant l'aigle, celui-ci a simplement déployé ses ailes et il s'est envolé dans le ciel. Que veut dire cela, Seigneur? C'est ce que a demandé le jeune homme. Et le Seigneur a répondu, cela veut dire qu'avant mon retour, la terre entière sera semblable à cette branche pourrie et sans force pour subvenir aux besoins de ses habitants. Mon peuple doit être comme cet aigle. Il doit apprendre dès maintenant à s'élever par l'Esprit Saint et à vivre au-dessus du domaine naturel. Il doit en effet apprendre que je suis sa source, quelles que puissent être les conditions environnantes. Chers amis, pour que je n'oublie pas, si vous avez l'Internet, moi je ne possède pas, vous pouvez consulter www.bibleexplique.ch. Et là, vous pouvez trouver beaucoup de thèmes bibliques, il y en a au moins 3000 CD, et un des premiers que j'ai fait, que l'Esprit-Saint m'a donné de faire, c'était tout ce qui concerne la fin des temps, l'Apocalypse, etc. Alors, s'il vous plaît, ceux qui ont l'Internet, 3xW, bibleexplique.ch. Personnellement, je crois que nous, l'Église de Christ, nous devons être prêts à traverser une période de tension universelle. Le Seigneur m'a chargé de parler à son peuple au sujet de son repos, de ce qu'il pourvoit pleinement et il nous protège par sa présence. De la même manière qu'il l'a fait pour Israël, voici fort longtemps, eh bien, Dieu le fera de nouveau pour l'Église quand les ténèbres et le jugement commenceront. Entre nous, sachez que la dispensation de la grâce est terminée. Et c'est la dispensation de jugement qui commence. Et comme quelqu'un disait, quand on voit les typhons, hurricanes, quand on voit les feux énormes, quand on voit les inondations, les tremblements de terre, alors J'aime pas dire cette phrase, mais le pire est à venir. De la même manière qu'il a aidé pour Israël, et voici bien longtemps, je le répète, il le fera de nouveau pour l'Église quand les ténèbres et le jugement commenceront. Noé est une image d'un peuple gardé, d'un peuple nourri et protégé pendant un temps de jugement universel. Certains aspects de l'expérience de Noé nous révèlent des vérités applicables à nous qui vivons dans le temps de la fin. Noé et sa famille de 8 membres ont survécu dans une petite arche à une catastrophe incroyable. Cette arche flottait au-dessus du jugement de mort, représenté par les eaux qui les entouraient. Ils étaient au milieu de ce jugement, mais n'en faisaient pas partie. Noé a traversé le grand déluge, mais le déluge ne l'a pas atteint. Le psaume 91 nous dit, versets 7 et 8, ce psaume nous promet, il en tombera 1000 à ton côté et 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Seulement tu contempleras de tes yeux et tu verras la récompense des méchants. Un peuple deviendra bientôt le peuple du psaume 91. La sainte parole de Dieu s'accomplira jusque dans les moindres détails. Je crois que nous sommes ce peuple, et je crois que c'est maintenant l'heure de prendre conscience et d'entrer dans son repos. Le psalmiste nous donne la clé pour échapper à ce jugement quand il dit « Parce que toi, tu as fait de l'Éternel ta demeure, sa présence nous donne puissance et elle pourvoit et elle protège. Gloire à Dieu !» Noé et son arche sont une image du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Noé signifie « se reposer dans la tranquillité ». Dans la Genèse chapitre 8, versets 8 et 9, nous lisons « Et il lâcha d'avec lui la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la face du sol. Mais la colombe ne trouva pas où poser la plante de son pied. » Et certaines versions disent « La colombe ne trouva aucun repos pour la plante de ses pieds. » La colombe revint à Noé dans l'arche, car les eaux étaient sur la face de toute la terre. Et il étendit sa main, et il la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Nous voyons donc là une colombe envoyée vers la terre, volant au-dessus des eaux sombres, remplies de mort et de corruption. Elle s'en détourna et retourna vers l'arche de Noé, car à l'extérieur, il n'y avait aucun lieu de repos. Le mot « repos » utilisé ici en hébreu est « manovach ». Cela signifie le repos d'un foyer, une demeure permanente de paix. De la même manière que la colombe est retournée dans son arche, nous aussi, nous devons toujours retourner dans notre arche intérieure. Il n'y a pas de demeure pour nous à l'extérieur dans le système corrompu de ce monde. Ici, nous n'avons pas de cité permanente. Nous sommes des pèlerins traversant un monde étrange. Notre seule demeure se trouve dans nos relations avec Jésus. Il est lui notre paix, il est notre demeure. Comme l'a fait David, donnons à nos hommes à nos âmes l'ordre de simplement de retourner dans son repos. Nous pouvons être distraits, même nous pouvons être détournés temporairement par le tumulte du monde autour de nous, dont le système est égocentrique. Il incite et encourage tout ce qui n'est pas encore confié et crucifié en nous. Toute convoitise de la chair et des yeux, tout orgueil de la vie encore présent, eh bien nous pouvons contempler le monde, nous pouvons y être attirés et même nous pouvons tenter d'y trouver un lieu, on peut dire, éphémère de repos, un lieu qui n'est pas vrai, mais virtuel, pour nous y accrocher. Mais nous devons apprendre que cette séduction n'est que déception. Elle est hostile à tout ce que nous recherchons et à tout ce que quoi nous aspirons. Nous échappons à ce genre d'angoisse tant que nous restons à l'abri dans sa présence et que la communion ininterrompue avec Christ est notre objectif. Nous pouvons comparer cette union avec le Seigneur au mariage d'un couple dévoué et fidèle l'un à l'autre. Oui, le petit livre de Ruth, il nous donne une très belle image de cette union et de la manière dont les Ruth de Dieu peuvent profiter pleinement des bienfaits de l'union avec Christ. L'histoire de Ruth est celle d'une jeune Moabite retournant avec Naomi, sa belle-mère, à Bethléem de Juda. Les deux femmes sont veuves et indigentes. La plus jeune, Ruth, prend soin de l'aînée. Elle glane dans les champs ce que les moissonneurs ont laissé, ce qui est bien maigre pour faire vivre deux femmes. Elle était étrangère dans le pays lorsque Boaz, un riche propriétaire des champs, l'a remarquée. Son cœur fut ému. Il fut ému de la voir accomplir cette dure besogne. Et il voulut alléger son fardeau. Et il lui dit que l'Éternel récompense ton œuvre et que ton salaire soit entier de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu t'abriter. Ruth, chapitre 2, verset 12. Jésus-Christ, c'est lui notre Boaz. Nous sommes tous semblables à Ruth lorsque nous sommes venus pour la première fois à Jésus. Il est notre Boaz. Quand nous venons à Christ, nous devons aussi sortir du milieu de ceux qui formaient notre ancien peuple. Nous devons nous séparer d'eux pour faire partie d'un peuple nouveau appartenant au Seigneur. Comme Ruth, nous commençons courbés sous le fardeau du travail. Mais notre Boaz, Jésus-Christ, nous voit aussi lorsque nous venons confiants nous abriter sous ses ailes. Il commence par enlever immédiatement le fardeau de nos épaules et nous voyons plus loin dans le livre de Ruth au chapitre 2 au verset 14 à 16 et il est dit « Et au temps du repos, Boaz lui dit « Approche-toi ici et mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre » Et elle s'assit à côté des moissonneurs, et il lui tendit du grain rôti, et elle mangea, et fut rassasiée, et en laissa de reste. Et elle se leva pour glaner, et Boaz commanda à ses jeunes hommes, disant qu'elle glane même entre les gerbes, et ne lui en faites pas de reproche. et vous tirerez aussi pour elle quelques épis, et vous les laisserez, et elle les glanera, et vous ne l'empêcherez pas, selon certaines versions. » Oui, Boaz a commencé de l'aider, afin que sa vie soit moins dure. Et le Seigneur Jésus a commencé aussi à échanger notre lourd fardeau contre le sien qui est doux et léger. Mais comme Ruth, nous commençons par une poignée par-ci, une poignée par-là, une partie par la grâce et une partie par nos propres efforts charnels. Mais ce n'est pas le repos complet que Jésus veut et désire nous donner. Dans Ruth chapitre 3 verset 1, nous voyons ces paroles de Naomi. Elle dit « Ma fille, ne te chercherais-tu pas du repos afin que tu sois enfin heureuse ?» Elle voulait du repos pour sa belle-fille. Et ici, le mot est « manovar », qui signifie un repos permanent, c'est-à-dire un foyer, voulant dire aussi, dans le cas présent, le mariage. Plus loin, Naomi a dit à Ruth qu'elle devait se reposer, terminer son dur labeur et ses efforts, que lui, Boaz, n'aurait certainement pas de repos tant qu'il n'a terminé toute cette affaire. Ruth chapitre 3 verset 18. Et Jésus-Christ, lui non plus, ne se reposera pas tant qu'il ne nous aura pas amenés, vous et moi, dans son repos. Le Seigneur ne se satisfait pas de ne prendre qu'une portion de notre fardeau ou de quelques-unes de nos craintes ou de pourvoir à quelques-uns de nos besoins. Mais il veut nous amener à sa pleine réponse pour chacun de nos besoins, à quelque niveau qu'il soit. Cela peut être comparé à un mariage, lorsque une jeune femme est prise pour épouse et que tout son bien-être est assumé et assuré par son mari. Réfléchissons ensemble à cette merveilleuse histoire. Ruth était une jeune veuve. Elle vivait seule avec sa belle-mère âgée. Elle était en pays étranger et elle avait de grandes difficultés pour survivre. Elle avait besoin absolument de tout. Cela décrit bien ce que nous sommes en tant que jeunes chrétiens avant d'entrer dans le repos de Dieu. Comme Ruth, chacun d'entre nous doit avec confiance venir sous les ailes du Seigneur, le Dieu d'Israël. Boaz était son proche parent. Il était un homme riche, ayant de l'influence en Juda. Il est l'image de Jésus-Christ. Il est notre riche et tout-puissant époux et frère. Boaz se réjouissait de pourvoir à tous les besoins de Ruth, puis au désir de son cœur. Eh bien, nous aussi, vous et moi, nous avons un riche Seigneur qui veut nous épouser. Il désire alléger dès maintenant notre fardeau avant les noces et durant ces temps de fiançailles. Il se réjouit de ce que pendant nos fiançailles avec lui, notre fardeau soit ôté de nos épaules. Il veut que nous puissions profiter des bienfaits de sa richesse et de sa puissance, et cela dès maintenant, avec les noces, comme ce fut le cas pour Ruth. Dans Osée, au chapitre 2, verset 16, nous lisons l'une des dernières révélations de Dieu à son peuple. « Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que tu m'appelleras Ishi, mon mari, et tu ne m'appelleras plus Baali, mon maître. Cette dernière révélation de Dieu est celle d'un mari. Un mari, non seulement est-il notre Seigneur, mais il est un Seigneur qui est aussi un mari. L'un est sûrement bien plus que l'autre. Voir Dieu comme Seigneur, c'est la suite logique de notre rencontre avec lui. Mais le connaître comme époux, c'est l'intimité et l'union de deux êtres qui ne font qu'un. Je peux apprendre à faire confiance à mon Seigneur, mais j'ai confiance totale à mon mari. Je le connais, je sais qu'il s'occupe de moi, qu'il pourvoit de toutes sortes de manières où je n'ai même pas besoin de demander. Je vis donc totalement dans la paix et le repos de sa plénitude. Ce qui lui appartient, il prend plaisir à le partager avec moi. Osée chapitre 2, verset 20 nous dit que nous, vous et moi, nous connaîtrons le Seigneur, et le mot utilisé en hébreu est yada, qui parle de connaissance la plus intime qui puisse exister entre deux êtres. Il est donc très probable que notre survie dans les jours à venir dépend d'une telle communion intime avec Christ. Souvenons-nous, son repos appelle sa présence, et sa présence engendre toute provision, protection et puissance. Dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32, il est dit « Mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira, fera des exploits. » Nos capacités de service viennent de nos relations intimes avec le Tout-Puissant. Jésus a dit « J'écoute mon Père et c'est lui qui fait les œuvres. Dieu m'a envoyé ces choses, il me les a enseignées avant un grand désastre dans ma vie personnelle. » En effet, tous nous devons apprendre, avant que la catastrophe ne frappe dans nos vies, qu'il existe un repos issu de sa présence qui est bien plus grand que toutes les épreuves dont nous devons faire face dans notre vie. Chers amis, avant la prière finale, eh bien, j'aimerais vous donner quelques encouragements et d'enseignements. Écoutez bien. Le désir ardent de recevoir Jésus-Christ. Seigneur, je désire te recevoir avec un sincère, ardent amour, avec toute la tendresse et l'affection de mon cœur, comme on désire dans la communion tant de fidèles que t'ont été si chers, qui t'ont été si chers à cause de leur vie pure et à cause de leur fervente piété. Ô mon Dieu, amour éternel, mon unique bien, ma félicité toujours durable, je désire te recevoir avec toute la ferveur et tout le respect. Et quoique je sois indigne d'éprouver cet admirable sentiment d'amour, je t'offre cependant toute l'affection de mon cœur, comme si j'étais animé seul de ces désirs enflammés qui te sont si agréables. Oui, tout ce que peut concevoir et désirer une âme, je te le présente, je te l'offre, avec un respect profond et une vive ardeur. Je ne veux rien me réserver, mais je veux t'offrir sans réserve le sacrifice de moi-même et de tout ce qui est à moi. Ô Seigneur mon Dieu, mon Créateur et mon Rédempteur, je désire te recevoir toi aujourd'hui avec beaucoup de ferveur et de respect, avec beaucoup de zèle pour ta gloire, avec beaucoup de reconnaissance, de sainteté, d'amour, de foi, d'espérance et de pureté. Et chers amis, maintenant, nous allons terminer ensemble, si vous le voulez bien, par la prière. Père céleste, oui, toi, source et origine de tout ce qui porte le nom de Père dans les cieux et sur la terre, tu veux que nous nous reconnaissions pour tes enfants bien-aimés. Mais Seigneur, nous sommes tous indignes d'être appelés tes enfants. Nous sommes des fils et des filles prodigues. Nous sommes éloignés de toi. Nous avons quitté la maison paternelle. Nous nous sommes égarés au loin. D'autant plus te rendons-nous grâce de nous avoir annoncé par Jésus-Christ, notre frère béni, cet évangile, car dans l'évangile se trouve le pardon accordé au fils prodigue et de nous avoir ainsi montré le chemin du retour à toi avec la promesse d'un éternel accueil. Ô, que nous tous, fils et filles prodigues, nous sachions vraiment comprendre ce message, que nous sachions nous lever, aller à toi et confesser que nous avons péché contre toi et que ainsi nous puissions recevoir ton pardon, que nous puissions recevoir ta bénédiction et acquérir la divine assurance que nous sommes tous tes bien-aimés enfants. Et cela au nom du Père, du Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Et vous pouvez réécouter, si vous le désirez, une telle étude. Cela est toujours important parce que certains d'entre nous, dont je fais partie, ont besoin parfois de réécouter une certaine étude pour encore mieux la comprendre et de pouvoir l'assimiler. À bientôt donc, soyez bénis. Au revoir mes très chers amis.